France Musique.
The next stop is 42nd Street.
Come here, venez.
Laurent Vallière, 42e rue.
Bonjour à tous. La Philharmonie de Paris vient d'ouvrir sa nouvelle exposition. Elle s'intitule « Comédie musicale, la joie de vivre du cinéma » et elle est consacrée aux coulisses, à l'histoire de la comédie musicale au cinéma. Aujourd'hui, nous y installons les micros de la 42e rue en compagnie de son commissaire. Bonjour N.T. Bin.
Bonjour Laurent.
Je veux dire, ça sera une semaine très comédie musicale sur France Musique, parce que samedi prochain, figurez-vous que, eh bien, chers auditeurs, je vous retrouverai à partir de 20h aussi en direct sur France Musique pour fêter les 10 ans de 42e rue. Ça sera 3 heures de musique sous la direction musicale de Thierry Boulanger avec son orchestre de 20 musiciens. Et durant 3 heures, nous accueillerons 50 artistes qui retraceront 10 ans de théâtre musical en France, avec notamment Michel Legrand, Alex Baupin, Ludivine Sagné, Laurent Naouri notamment, et aussi la création d'une comédie musicale inédite pour la 42e rue, signée Virginie Lemoine, Pierre Note et Raphaël Bancou. Je vous donne donc rendez-vous samedi de 20h à 23h. En direct du studio 104 de Radio France sur France Musique. Et vous pourrez aussi regarder cette soirée spéciale sur la page Facebook Live de France Musique et de 42e rue. Mais donc aujourd'hui, nous commençons cette grande semaine de comédie musicale avec vous, N.T. Bin. Et alors nous entrons dans cet espace, dans cette grande exposition. Et forcément, nous débutons. Je dis forcément non. Pourquoi débuter par Singing in the Rain, votre exposition?
On débute par Chantons sous la pluie parce que c'est pas seulement le film de 1952, mais c'est aussi de la chanson Singing in the Rain, qui date de 1929, donc qui a été coécrite par le producteur du film Chantons sous la pluie, qui à l'époque écrivait des chansons, c'est Arthur Freed. Et c'est une chanson qui a été écrite au moment de la crise économique et qui incitait à garder la joie de vivre malgré les intempéries, y compris métaphoriquement, malgré la Grande Dépression.
Alors c'est donc... Le titre, le film est inspiré d'une chanson qui avait été écrite dans les années 30 par ces deux auteurs. Et vous avez choisi, puisque c'est vous qui programmez 42e rue ce matin, eh bien de faire découvrir aux auditeurs deux autres chansons de ces auteurs, Arthur Freed et Nacio Herbron.
Dreaming, dreaming,
alone. I should have known you were temptation. You smiled, luring me on. My heart was gone. You were temptation. It would be thrilling if you were willing. If it can never be, pity me, for you were born to be kissed. I can't resist. You are temptation and I am yours. Here is my heart, take it and say we'll never part. I'm just a slave, only a slave. I can't resist. You are temptation and I am yours. Here is my heart, take it and say we'll never part. I'm just a slave.
Ce matin sur la 42e rue de France Musique, on explore l'histoire de la comédie musicale au cinéma grâce à vous, N.T. Bean, à l'exposition qui vient d'ouvrir à la Philharmonie. Comédie musicale, la joie de vivre du cinéma. C'était Bing Crosby dans une chanson composée par les auteurs de Chantons sous la pluie, dans un film de Raoul Walsh. Méconnue, cette chanson. Pourquoi ce choix ce matin ?
Ce choix parce que l'exposition rend surtout hommage aux danseurs, puisque la danse c'est visuel, mais je voulais qu'on n'oublie pas les chanteurs. Et Bing Crosby a été une immense star à Hollywood. Il a présenté de nombreux standards, dont le célèbre Noël Blanc, mais je voulais, enfin quand même, Temptation, qui, de même que You Are My Lucky Star, qui sont deux énormes succès des années 30, sont tous les deux repris dans Chantons sous la pluie. Oui. Temptation, c'est le tango à la surprise partie du producteur.
Et justement, juste auparavant, ce qu'on a entendu, c'est la première version de You Are My Lucky Star. C'est Eleanor Powell qui interprète cette chanson au tout début de sa carrière. C'est ça, c'est dans quel film, en quelle année?
C'est dans l'un des deuxièmes, je crois que c'est le deuxième Broadway Melody. Et Eleanor Powell, c'était donc cette grande danseuse de claquettes. Il y a quand même un mystère, c'est qu'on ne sait pas si c'est vraiment elle qui chantait la chanson sur le disque. Donc le mystère plane, parce qu'elle est toujours doublée dans les films, mais sur le disque on ne sait pas. Et donc cette chanson dans le film Chantons sous la pluie est reprise avec un jeu de mots sur le mot de star, puisque vous êtes ma bonne étoile, mais vous êtes aussi ma bonne star de cinéma.
Alors, on avance dans cette exposition ici à la Philharmonie. On se retrouve devant, alors j'allais dire une frise, mais c'est pas du tout une frise, puisque c'est une présentation chronologique et tout en images audiovisuelles de l'histoire du cinéma. Je voulais qu'on s'arrête dans les années 30. En fait,
quand on parle de comédie musicale, N'Tébine, on croit toujours que tous les films sont sucrés, c'est des joies de vivre, comme le titre de l'exposition. En fait, il y a des films extrêmement sombres. Vous avez choisi d'enchaîner avec un titre qui s'appelle Remember My Forgotten Man. C'est une chanson absolument terrible, en fait, qui est interprétée dans un film de mise en scène en particulier pour les parties chantées par Busby Berkeley.
Absolument. Et ce qui est intéressant, c'est que le film est une sorte de suite, si on peut dire, à 42e rue, le film de Lloyd Bacon et Busby Berkeley de 1933, qui donne son titre à votre émission, Laurent. Et ensuite, Chercheuse d'or de 1933, c'est vraiment la réponse à la crise. C'est-à-dire plus personne n'a d'argent, on cherche de l'argent. Et donc ce sont des jeunes filles qui, à Broadway, cherchent à la fois du travail dans des shows, dans des spectacles, et elles cherchent aussi la sécurité financière à travers de riches protecteurs éventuellement. Donc, et dans ce numéro final, il est chanté par une prostituée, jouée par John Blondell. Après, il est repris par d'autres femmes qui incite le spectateur à se souvenir de l'homme oublié. Qui c'est l'homme oublié? C'est celui qui s'est battu pour son pays pendant la Première Guerre mondiale et qui aujourd'hui est victime de la crise, qui fait la queue au chômage, à la soupe populaire. Et à la fin, vous avez tout le ballet des chômeurs qui viennent haranguer le spectateur comme dans une immense cathédrale en lui disant « Souvenez-vous de nous, nous avons risqué notre vie pour ce pays qui ne nous le rend pas bien. » Et nous sommes les victimes de ce système. C'est par ce numéro-là que les producteurs ont choisi de terminer le film plutôt que par des girls dans des magnifiques robes, comme ça avait été à un moment suggéré. Mais finalement, ils ont terminé par le ballet des chômeurs.
John Blondell est à Motten, extrait des Chercheuses d'or de 1933, un film de Mervyn LeRoy, Remember My Forgotten Man.
Forget your sympathy. That's all right with me. I was satisfied to drift along from day to day till they came and took my man away. Remember my forgotten man? You put a rifle in his hand. You sent him far away. You shouted, hip hooray. But look at him today. Remember my forgotten man. You had him cultivate the land. He walked behind a plow. The sweat fell from his brow. But look at him right now. And once he used to love me. I was happy then. He used to take care of me. Won't you bring him back again? 'Cause ever since the world began, a woman's got to have a man. Forgetting him, you see, means you're forgetting me. Like my forgotten man.
Remember my forgotten man. You put a rifle in his hand. You sent him far away. You shouted hip hooray. But look at him today. Forgotten man, you had him cultivate the land. He walked behind.
thaw. The sweat fell from his brow, but look at him right now. And once he used to love me, I was happy then. He used to take care of me.
Deuxième rue, Laurent Vallière, France Musique.
Remember My Forgotten Man, c'était dans un film dont les moments chorégraphiés étaient signés Busby Berkeley. Là, on se retrouve, Bean, dans une grande salle avec un écran géant. Il fait quoi ? Quelle longueur ?
24 mètres de base.
Voilà, 24 mètres de base. Et c'est formidable parce qu'on voit les figures géométriques qu'adorait filmer de hauteur Busby Berkeley. Elle était à quelle hauteur sous plafond, sa caméra, lorsqu'il filmait les centaines de jeunes filles qui faisaient plein de figures géométriques ?
Elle pouvait être jusqu'à plus de 10 mètres puisqu'il est reconnu que Busby Berkeley a fait percer le plafond d'un studio parce qu'il n'était pas assez haut pour pouvoir filmer en plongée verticale ces figures géométriques qui étaient organisées par les girls.
C'était presque, il y avait presque une organisation de militaire lorsqu'il demandait à ces jeunes filles de prendre de haut. On pouvait croire que c'était une fleur qui prenait vie, que c'était un plein de formes un peu comme ça floraux.
Ben c'est
floral.
Vrai que c'est une discipline extraordinaire, mais les motifs eux-mêmes ne sont pas militaires, ils sont plutôt sensuels, parfois érotiques même, je dirais, et presque abstraits. C'est-à-dire que les plasticiens, les cinéastes d'avant-garde ont tous adoré Busby Berkeley, ont parfois repris certaines de ses images dans leurs installations.
Alors pendant que nous, en fait, cet écran géant permet de, comme ça, de découvrir différentes facettes de la comédie musicale. Là, nous en sommes à My Fair Lady, une séquence intitulée Tout en chic et en style. Mais j'avais envie de m'arrêter devant ce petit panneau là que, en fait, vous nous faites rentrer dans les coulisses de la comédie musicale. Et c'est vrai que le moment le plus crucial, le plus compliqué, voire qui peut être tourné en ridicule, c'est le moment où les acteurs se mettent à chanter. Et alors, il y a tout un panneau qui explique un petit peu ce que vous appelez l'art de la transition. Qu'est-ce que c'est l'art de la transition au cinéma ?
L'art de la transition, c'est d'abord comment introduire une chanson au cœur d'un récit qui est dialogué. Donc, comment passer de la séquence parlée à la séquence chantée et éventuellement ensuite à la séquence dansée. Et c'est aussi donc faire écrire des chansons qui s'introduiront dans le scénario. C'est ensuite choisir les interprètes qui sauront faire la transition d'une manière naturelle, mais c'est aussi toute une machinerie, je dirais, technique, avec les ingénieurs du son, avec les mixeurs, qui sont obligés de tenir compte de cette transition pour qu'elle soit la plus douce possible.
Alors là, il y a 8 exemples. La transition parfaite du dialogue à la chanson en prise de son direct sur le plateau, c'était quel film, par exemple ?
La transition parfaite, eh bien, c'est le film le plus ancien de ce petit panneau.
Ouais.
Et c'est Fred Astaire dans un film qui s'appelle Top Hat, le danseur du dessus. C'est la première chanson qu'il chante à son ami impresario. Il est en train de parler. Et puis, sans qu'on s'en aperçoive, il est en train de chanter une chanson d'Irving Berlin. Donc, et c'était une époque, là on est en 1935, où le playback n'est pas encore complètement généralisé. C'est-à-dire qu'il commence à être généralisé. Le playback, c'est quoi ? C'est qu'on préenregistre toutes les chansons avec un orchestre avant, et ensuite on mime les paroles sur le plateau. Mais moi je suis sûr, parce que j'ai revu cette séquence des centaines de fois en me posant la question, que pour cette chanson-là, Fred Astaire a enregistré le dialogue et la chanson en direct sur le plateau.
Alors avant d'entendre No Strings de Fred Astaire, quelles sont les différentes autres façons, par exemple, de passer des dialogues à la chanson ?
Vous avez le passage à la rêverie intérieure, par exemple, Judy Garland qui se dit à elle-même qu'elle vit dans un monde morose et puis qui va rêver d'un autre pays au-delà de l'arc-en-ciel. Donc elle parle à son chien, en fait, puis elle va finir par exprimer ce qu'elle ressent à l'intérieur d'elle-même. Un glissement alcoolisé, c'est pas Judy Garland cette fois-ci, c'est un dialogue entre Frank Sinatra et Bing Crosby dans Haute Société, qui sont amoureux de la même femme jouée par Grace Kelly. Grâce à un claquement de doigts, le travail se transforme en plaisir, et le dialogue en chant, Mary Poppins dans A Spoonful of Sugar.
Alors on écoute votre premier exemple, Fred Astaire, No Strings.
Me, you see, a youth was completely on the loose. No ends, no yearnings, no strings, no connections, no ties to my affections. I'm fancy free, and free for anything fancy. No dates that can't be broken, no words that can't be spoken, especially when I am feeling romancy. Like Robin on a tree, like sailor goes to sea, like an unwritten melody, I'm free, that's me. So bring on the big attraction. My decks are fit for action. I'm fancy free, free for anything fancy. No strings, no connections, no ties to my affections. I'm fancy free, free for anything fancy. No dates that can't be broken, no words that can't be spoken, especially when I am feeling romancy.
Just heard of the Shorty George, got word of the Shorty George. Seems that it's a kind of jig, named for someone about so big. He rambles around the town, preambles around the town, then steps on the crowded street and beats his feet till his feet is beat.
Watch him go, and he gets like a real natural man.
High stepper is Shorty George, black pepper is Shorty George. He dances to pay the rent and to see that you're solid sent. Say, mister, can you spare a penny? Lady, can you spare a dime? He makes I don't know how many
cause he's dancing all the time. Papa's dressed up mighty sporty.
Mama's snoozing in the shade. But while Mama's catching 40, Shorty sees the rent is paid.
Get hip to the Shorty George. Hop, skip to the Shorty George. Directions are short and sweet.
I know you beat your feet until your feet is beat.
So catch on to Shorty George and latch on to Shorty George. Good feel, I'm telling you that the Shorty George is the dance to do.
Shorty George, Fred Astaire. Hein. Pourquoi ce choix? Oh, il n'est pas très connu ce morceau N'Tebin.
Pas très connu.
De Fred Astaire qui danse merveilleusement des claquettes.
Ce qui m'intéressait, c'était de rendre hommage à Jérôme Kern, donc le compositeur, mais aussi d'entendre les claquettes sur la bande-son d'un film. Parce que ce qui m'énervait, moi, quand j'étais gamin et que j'achetais les disques des films que j'aimais, c'est que dans les enregistrements faits pour le disque, il n'y avait jamais les bruits des claquettes. Donc ce qui est bien, c'est que quand on prend directement de la bande-son du film, on entend les claquettes qui souvent, qui étaient toujours post-synchronisées d'ailleurs.
Oui, on découvre ça dans votre exposition. En fait, à l'époque, il n'y avait pas de micro sur le plateau. Donc en fait, il faisait des claquettes pour de faux devant la caméra et après, il les faisait pour de vrai devant un micro, c'est ça?
En fait, les premières années du parlant, il les faisait en son live devant la caméra. Et ensuite, ils se sont aperçus qu'il y avait beaucoup trop de contraintes techniques parce qu'on refait les prises et c'était trop compliqué pour les interprètes. Donc, ils ont décidé de post-synchroniser à partir de 35-36 les claquettes en studio, synchronisées avec le son témoin qui avait été pris sur le plateau. Et c'est ce qui arrive pour ce qu'on vient d'entendre, c'est Fred Astaire avec Rita Hayworth qui se sont post-synchronisés eux-mêmes en studio en regardant les images.
Avec les mouvements de pied, il ne faut pas se tromper de rythme. Hein, quand même.
Ah oui, Gene Kelly détestait ça. Il disait que c'est le pire moment de la fabrication d'une comédie musicale parce qu'on est obligé de recréer, mais en faisant du surplace, toute notre chorégraphie. Et on doit être complètement synchrone avec les claquettes de l'image. C'est un tour de force.
Où est-ce qu'on est là, Bine? Je me vois à l'écran et vous aussi. Qu'est-ce que c'est que cet espace dans lequel vous nous avez emmené?
Alors là, c'est l'espace où les visiteurs de l'exposition peuvent apprendre à faire des claquettes.
On est filmé alors?
On est filmé. Il y a Fabien Ruiz, qui est le claquettiste que vous avez déjà reçu dans votre émission et qui a appris à Jean Dujardin et Bérénice Bejo à danser le numéro final de The Artist. Eh bien, Fabien Ruiz a été filmé, et c'est un tutoriel qui apprend aux visiteurs quelques pas, puis une petite chorégraphie en l'imitant, et puis on peut être filmé et se voir ensuite. Et trois fois par semaine, et tous les jours pendant les vacances scolaires, Fabien viendra lui-même l'après-midi pour apprendre aux visiteurs à danser.
Alors, dans cette exposition que vous avez imaginée, Ntebin, vous consacrez toute une partie aussi à filmer la danse au cinéma, et vous avez choisi aujourd'hui de nous proposer un de vos morceaux préférés, vous nous direz pourquoi après. C'est la danse de Carousel, la valse de Carousel dans la comédie musicale de Richard Rodgers et Oscar Hammerstein, chorégraphée par Agnès de Mille. La valse de Carousel, extrait du film Carousel, adapté de la comédie musicale de Richard Rodgers et Oscar Hammerstein. On est à l'exposition, à votre exposition, comédie musicale, la joie de vivre du cinéma, qui vient d'ouvrir à la Philharmonie de Paris. On entend actuellement du Elvis Presley qui est en train d'être présenté sur le grand écran de 25 mètres. Et Grease. Comment vous l'avez conçue cette exposition, Anne Kevin?
Bien, cette exposition, en fait, elle est conçue d'une manière d'abord immersive, c'est-à-dire qu'on engage les gens à s'embarquer à l'intérieur des films avec une projection géante, mais aussi on décrypte la fabrication, les coulisses d'une comédie musicale. C'est-à-dire aussi bien quelles histoires vont servir de comédie musicale, quelles chansons vont y être intégrées, quelle distribution, quel casting on va y mettre, des gens qui savent jouer la comédie, mais aussi chanter et danser. Quels costumes on va leur faire porter de manière à ce qu'ils dansent de manière naturelle.
Juste à côté, il y a les costumes, les dessins des costumes de Sid Charisse dans tous ses films.
Ouais, c'est très beau, c'est un livre géant. Et donc, ça nous mène à la chorégraphie, évidemment. Comment est-ce qu'on filme la danse?
Oui, alors, il y a toute une partie qui est passionnante. Bon, là, on entendait tout à l'heure la valse de Carousel. C'est un film, vous m'avez dit, que les gens n'aiment pas trop, cette adaptation au cinéma de Carousel. Et c'est vrai qu'elle préserve la danse de Agnès Demille à la création. Comment on filme la danse au cinéma dans une comédie musicale? Il y a différentes façons de faire.
Ben, c'est Gene Kelly qui a donné l'une des clés de ça. Le problème du cinéma, c'est que c'est un médium en deux dimensions et que la danse est un art en trois dimensions. Donc l'idée, c'est de recréer la troisième dimension grâce au mouvement de la caméra, au déplacement des danseurs, à l'utilisation de la profondeur dans l'image et grâce aussi à la lumière et à la couleur qui vont permettre justement de distinguer la danse des autres éléments, le décor, l'ambiance du film.
Lui, par exemple, il avait inventé d'utiliser toutes les possibilités du cinéma, par exemple de danser avec son ombre, puisque c'était possible, en filmant deux fois la même séquence.
Ah oui, alors après, il y a les effets spéciaux, effectivement. Il disait que ce que nous apporte le cinéma et qui est impossible sur une scène de théâtre, c'est les effets spéciaux qui, à l'époque, n'étaient pas encore numériques. Donc, on peut le voir danser avec la souris Jerry de Tom and Jerry, par exemple, dans Escala Hollywood. Et ça, c'est des choses qui ne sont possibles qu'au cinéma. Il danse avec son double. Fred Astaire danse avec un chorus de figurants qui sont tous des Fred Astaire miniatures. Enfin voilà, ce qu'on peut faire au cinéma, parfois on ne peut pas le faire autrement.
Alors vous êtes très fin dans votre choix ce matin pour la 42e rue Transmusique. Vous avez choisi une chanson que Gene Kelly n'a pas voulu chanter dans l'adaptation de Brigadou, dans laquelle pourtant il excelle, un film de Vincente Minnelli. Alors du coup, on a choisi une version, vous avez choisi la version de cette chanson par Bryn Terfel, c'est There But For You Go I.
This is hard to say, but as I wandered through the lea, I felt for just a fleeting moment that I suddenly was free of being lonely. Then I closed my eyes and saw the very reason why. Thank you.
I saw a man who had never known a love that was all his own. I thought as I thanked all the stars in the sky,
nesting at sundown. Each little rosebud is sleeping, while shadows are creeping. In a little cottage cozy, the world seems rosy at sundown. Where a loving smile will greet me, always meet me at sundown. I seem to sigh, I'm in heaven. When the night is falling, love is calling me home. I seem to sigh, calling me home.
42e rue, Laurent Vallière, France Musique.
Doris Day dans Les pièges de la passion, en anglais Love Me or Leave Me, un film, une constante dans la comédie musicale, des films qui parlent deux films qui sont en train de se faire. Elle est magnifique, la séquence de ce moment avec Doris Day. Elle danse sur une sorte de balançoire en fleurs, c'est ça ?
Oui, alors en fait, c'est un sous-genre de la comédie musicale ou du film musical qui est le biopic. Et donc, ça raconte l'histoire d'une chanteuse qui s'appelle Ruth Etting, qui est jouée par Doris Day et qui, à un moment donné, fait carrière à Hollywood, notamment dans un film qui a été chorégraphié par Buzz Berkeley. Et là, c'est le tournage du film dans le film. Et j'ai choisi cette chanson parce que je la trouve superbe. C'est Doris Day qui se balance. Alors, on voit la caméra qui est accrochée pour se balancer en même temps qu'elle. Et puis, c'est un tournage à Hollywood.
Alors Ntebin, c'est vous qui êtes le commissaire de cette exposition qu'on découvre aujourd'hui sur la 42e rue, comédie musicale, la joie de vivre du cinéma. Vous pouvez nous dire aussi pourquoi vous avez choisi ce morceau juste auparavant de Brin Terfel, extrait de Brigadoon.
Oui, parce que Brigadoon, c'est une pièce qui avait très bien marché au théâtre et le film est un petit peu mal aimé. Et en fait, il y a un paradoxe, c'est que dans le spectacle de Broadway, c'est la chanson qui était mise en avant par les auteurs de My Fair Lady, Lorna and Lowe, les futurs auteurs, et ils ont décidé d'en faire un film dansé. Et Gene Kelly détestait sa voix chantée, en fait. Et le grand succès, la plus belle chanson de Brigadoon, Gene Kelly ne se sentait pas de la chanter, il se sentait pas à la hauteur, donc il a demandé à la MGM de le couper du film, ouais. Alors que c'est la plus belle chanson du show. Donc moi j'ai choisi le baryton Brin Terfel pour l'interpréter avec sa voix d'opéra, parce que c'est une chanson sublime, en plus dont les paroles sont des paroles d'amour merveilleuses.
Ntebin, on est dans une autre partie de votre exposition qui est plutôt consacrée aux films musicaux pour enfants. Il y a les Aristochats qui sont en train de danser sur le piano dans le film de Disney. Mais vous vouliez terminer cette émission par un morceau qui est important pour vous, qui est extrait d'une comédie musicale qu'on ne connaît pas très bien, de Richard Rodgers et Oscar Hammerstein, les auteurs de La Mélodie du Bonheur, qui a été adapté au cinéma. C'est Flower Drum Song. Qu'est-ce que c'est et pourquoi ce choix ?
Ben, pourquoi ce choix ? Ben, parce que moi, je suis d'origine vietnamienne. Et c'est vrai que le grand absent des comédies musicales américaines, ce sont les Asiatiques. Il y en a eu une qui est l'exception, qui confirme la règle, qui a été un grand succès à Broadway, mise en scène par Gene Kelly, et qui a été adaptée à l'écran par Henry Koster, et dans lequel tous les membres de la distribution sont des Asiatiques d'origine soit chinoise, soit japonaise. Ça se déroule dans Chinatown à San Francisco.
À San Francisco, oui.
Je trouve le score de Rodgers et Hammerstein absolument succulent. Là, c'est une chanson comique où un personnage secondaire énumère toutes les raisons pour l'héroïne de ne pas l'épouser.
Alors qu'elle est venue, elle vient de Chine, elle a immigré illégalement et en gros, on lui avait promis de se marier avec ce garçon-là quand même.
Absolument.
Alors c'est la version cinéma de cette comédie musicale de Richard Rodgers et Oscar Hammerstein, Drum Flower Song, Jack Sue et Miyoshi Umeki, Don't Marry Me.
You are young and beautiful, sweet as the breath of May. Earnestly I speak to you, weigh every word I say. If you wanna have a rosy future and be happy as a honeybee with a husband who will always love you, baby, don't marry me. If you want a man you can depend on, I can absolutely guarantee I will never fail to disappoint you. Baby, don't marry me. I eat lychee nuts and cookies in bed, and I fill the bed with nutshells and crumbs. I have irritating habits you'll dread, like the way I have of cracking my thumbs. My grandpa was a big game hunter. He met grandma swinging on a tree. If you wanna have attractive children, baby, don't marry me. Don't marry me.
I would like to see my sons and daughters sliding up and down their father's knee.
They'll get splinters in their little fannies. Cookie! I'm devoted to my dear old mama, and if you and mama disagree, I would always side with her against you. Schnooky, don't marry me.
I would always like to know where you go. I don't like a man to keep me in doubt.
Honey, that's a thing that's easy to know. You will always know where I am. I'm out. I am talking like a Chinese uncle. I'm as serious as I can be. I am saying this because I love you. Darling, don't marry me.
It's too late, Sammy Fong. The invitations have been sent. All is arranged.
Yeah, I guess we're both hooked pretty good.
Yeah.
Yeah!
la 42e rue de France Musique s'est installée aujourd'hui à la grande exposition comédie musicale La joie de vivre du cinéma qui est à la Philharmonie de Paris. Et c'est N.T. Bean qui a choisi la programmation de cette émission. Pourquoi cette version par Sarvoon et Count Basie de Sandy the Clown de Stephen Sondheim?
Eh bien, pour moi, c'est un modèle, en fait, d'une chanson qui a été créée spécifiquement pour une comédie musicale, très intégrée, avec un livret. C'est même adapté d'un film de Bergman, Sourire d'une nuit d'été. Ça s'appelle Little Night Music. Et malgré tout, quand on sépare la chanson de son contexte, elle peut devenir un standard de jazz sublimement interprété par Sarah Vaughan, qui le chantait. Moi, je l'ai vue live dans tous ses concerts. Elle chantait souvent en bis, d'ailleurs, cette chanson sublime, Sending the Clowns.
Merci N.T. Bean. Alors, évidemment, il y a encore plein d'autres choses à découvrir. Moi, j'ai adoré le moment. La petite vidéo, là, où vous comparez La La Land et vous montrez tous les films qui ont inspiré les séquences de La La Land. Il y en a beaucoup, hein,
j'ai l'impression. Il y en a plein, ouais. Pas forcément des films musicaux, d'ailleurs.
L'exposition est à découvrir à la Philharmonie de Paris et j'ai même quelques catalogues à vous offrir, vous derrière le poste, plutôt devant le poste exactement, trois catalogues de l'exposition. Pour le recevoir, eh bien, il vous suffit d'aller sur la page de 42e rue sur francemusique.fr et de cliquer sur l'onglet contact. N'oubliez pas d'indiquer surtout votre adresse afin que nous puissions vous l'offrir. Et puis vous dire aussi que la Philharmonie, du coup, se met aux couleurs de la comédie musicale. Il y aura pas mal de week-ends qui seront consacrés à ce genre, et notamment le 3 et le 4 novembre avec un signé concert de Mary Poppins. Merci N.T. Bean.
Merci Laurent.
Plus d'informations sur la 42e rue, sur la page de France Musique. Sachez que c'est une exposition en partenariat avec notre chaîne, que ça sera double dose de comédie musicale cette semaine. François-Xavier Tchemchak consacre ses arabesques toute la semaine de 14h à 16h à la comédie musicale. Et puis samedi prochain, je vous retrouve en direct exceptionnellement à partir de 20h jusqu'à 23h pour fêter ensemble les 10 ans de 42e rue. Vous étiez sur la 42e rue de France Musique proposée par Laurent Vallière, préparée avec Martine Moni, à la prise de son à la Philharmonie Nicolas Mathias, mixage Philippe Mercher et à la réalisation Perrine Mingui. Très bon dimanche.
Rideau.
À réécouter sur francemusique.fr.